RCF.
Monseigneur Élie Wardé, nous sommes avec vous cette semaine pour marquer le temps de l'Avent en étant tourné vers l'Orient. À Noël, nous serons au Liban et vous êtes vous-même originaire de Beyrouth. Alors la question de la lumière et de l'obscurité, nous avons pu voir qu'elle est très présente dans la Bible. Avec vous, on va s'arrêter sur sa représentation artistique. Comment est-ce que résonne cette question de la lumière et de l'obscurité ? On sait que dans l'Europe, on a beaucoup parlé des vitraux qui laissent passer la lumière, mais vous, au Liban, qu'est-ce qui laisse passer la lumière dans l'architecture religieuse ? Est-ce que c'est important ?
Bien sûr, comme on a dit que Jésus, il est la lumière, et donc c'est à la lumière de Jésus où on comprend notre vie et où on organise notre vie et où on entre dans la foi et on comprend les événements salvifiques. Et donc, dans l'Église occidentale, comme vous l'avez bien dit, ce sont à travers les vitraux, car les vitraux et donc tout ce qu'elle présente des événements de la Bible, différents événements de la Bible, quand il y a la nuit, on ne voit rien. Il faut le soleil et c'est à la lumière du soleil qu'on puisse comprendre les événements et les scènes évangéliques ou bibliques de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Par contre, chez nous, c'est à travers les icônes, voilà. À travers les icônes, et c'est pour cela à chaque icône on met une lampe ou on met une bougie, et cette bougie, cette lampe qui représente le Christ, qui est la lumière, la lampe de mes pas et la lumière de mon chemin, voilà, qui me permet de regarder cette icône là et être émerveillé par tout le message d'amour, de sagesse, d'intelligence qu'elle peut me donner pour que je puisse aller vers ce qui est bien, ce qui est bon et vers la perfection, pour ainsi dire, voilà, vers le Seigneur, vers Dieu.
C'est cela que veut dire la dorure sur les icônes ? C'est cette lumière aussi ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Alors, vous pourriez nous parler aussi peut-être des grands maîtres de la peinture orientale, ceux qui sont justement dans cette production d'icônes.
Donc, je ne suis pas un spécialiste dessus, je suis spécialisé en droit canonique, comme vous l'avez signalé dans les séances avant, mais l'iconographie, c'est la théologie, c'est la Bible, mais en icône. C'est Dieu qui parle, pas à travers les mots, mais à travers les icônes, avec les événements. Et donc, bien sûr, il y a plein des hommes doués d'église jusqu'à nos jours, qui peint, qui font les icônes, que ce soit dans la tradition araméenne, syriaque, antiochienne ou la tradition byzantine. Voilà, donc il y a des magnifiques vraiment icônes. Ça suffit d'aller à l'œuvre d'Orion et d'entrer dans la petite chapelle que Monseigneur Gollnisch, que je le salue, la considère comme sa cathédrale. Elle est dans ses quatre murs envahie par les icônes de différentes traditions orientale, voilà, byzantine, copte, arménienne, antiochienne. La bougie, elle a un sens formidable. Pour moi, la bougie, c'est un chemin de métamorphose et c'est un chemin de transfiguration. C'est-à-dire, on a la bougie qui se consume, c'est comme le chrétien se consume par sa lumière et en fait, elle se consume pour naître dans le corps et dans la vie d'autrui. C'est pour cela quand quelqu'un meurt, on dit que sa lumière passe de l'extérieur à l'intérieur. Donc, la bougie se consume, on la voit plus, car justement, sa lumière, elle est dedans de moi. Et donc, c'est magnifique pour dire que la mort et la résurrection, je meurs comme un individu pour ressusciter dans le cœur de la communauté.
Qu'est-ce que vous diriez de la lumière, puisqu'on est sur cette question de la lumière et de l'obscurité à l'occasion de l'Avent, dans la littérature libanaise ? Est-ce que c'est un thème récurrent ? Est-ce que c'est la question de l'obscurité et de la lumière, c'est un contraste ? Qu'aiment à cultiver les écrivains ?
Aujourd'hui, malheureusement, on voit le Liban, surtout Beyrouth, noyé dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le moment où c'est inacceptable dans le 21e siècle et un pays d'une grande civilisation, d'une grande culture qui a marqué le monde tout entier, un Libanais est connu sans tomber dans l'orgueil, car je m'enorgueillis uniquement par la croix de mon Christ. Et donc, pour dire, malheureusement, on voit les ténèbres et l'obscurité aujourd'hui, dans la crise inédite et dans les événements déplorables, horribles, épouvantables, dramatiques qu'on est en train de vivre au Liban. Donc, moi-même, quand j'étais au Liban pour les vacances le mois d'août, j'étais victime et la proie de ces ténèbres-là qui m'ont donné le goût du néant, de l'angoisse, de la peur, de non-sens et de l'humiliation et de l'esclavage. Donc,
de l'esclavage, qu'est-ce que vous voulez dire par ce terme ?
L'esclavage, c'est-à-dire ne pas être comme dominé, voilà, comme dominé, sans avoir le pouvoir d'émanciper. Donc l'esclavage, c'est que la liberté ne soit pas capable de faire face à la gravité et à la dangerosité et à la monstruosité des ténèbres. Et donc, du coup, ça, mais moi encore, je vais passer un message de sincérité, que je vois que mes concitoyens, mes compatriotes libanais, il y a une grande majorité qui ne fait pas des efforts pour changer leur manière de se comporter et de voir. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours plongés et qui malheureusement restent plongés dans ces ténèbres-là.
C'est une forme de désespérance, en fait, dont vous parlez.
Jamais le désespoir et la désespérance a le dernier mot. Pas pour moi au moins, car le Liban, c'est la terre de Dieu déjà, car on parle des cèdres de Dieu, avec lesquels le temple de Jérusalem était construit. C'est la volonté de Dieu que sa maison soit fondée, soit construite par les cèdres du Liban. C'est pour cela qu'on les appelle les cèdres de Dieu et elles sont d'une potentialité incroyable car elles résistent devant la violence des orages et des intempéries. Et du coup, c'est le terre de sainteté de Saint-Charbel, de Saint-Rafka. On a des saints et on a des hommes d'église formidables et merveilleux. Bien sûr, il y a dans l'église beaucoup de pécheurs, des hommes pécheurs, ils sont des hommes de pécheurs. Je les invite à ces hommes d'avoir conscience de leur engagement spirituel et de leur obéissance pour le service de l'Évangile pour lequel ils ont décidé de consacrer leur vie. Et c'est vrai, il y a une grande partie négligente, mais il y a encore pas mal des hommes d'église, des religieux, des religieuses, des prêtres, des curés vraiment merveilleux qui œuvrent en se donnant jusqu'à même accepter le martyr s'il le faut. Comme on a parlé de cette bougie qui se consume, on n'a pas peur de se martyriser, car justement, être martyr, c'est être une bougie qui se consume.
Alors, vous parlez du Liban qui traverse des ténèbres. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ne voient pas d'issue, justement ? Comment est-ce qu'on peut sortir de l'obscurité au Liban aujourd'hui, comme en France, pour ceux qui, justement, sont sur ces chemins un peu de désespérance, se sentent dans les ténèbres ?
En fait, je vais dire quelque chose qui n'est pas de la normale dans la conception des gens. Pour moi, Là où il y a les ténèbres, c'est là où vraiment c'est un moment d'une grande importance et c'est un moment essentiel pour que je puisse retrouver et trouver le bon chemin et grandir et mûrir. C'est comme Saint Paul, il a dit, là où il y a le péché, le symbole, les ténèbres, c'est là où la grâce, elle est là. En fait, quand on est désespéré, c'est là où Dieu, il est le plus présent. C'est là où vraiment la foi commence, comme on dit, quand tout nous paraît fini, quand il n'y a plus un issue devant nos yeux. C'est là où la foi commence. C'est, par exemple, moi, je suis passé 2 mois dans le coma à cause de la COVID l'année passée. J'ai eu 2 crises cardiaques et j'étais annoncé mort. Et ce qui était une souffrance, et vraiment c'était une souffrance, et c'était terrible pour mes bien-aimés, pour tous ceux qui me connaissent, pour moi, c'était salvifique et salutaire. C'était un moment de grâce.
Parce que vous avez compris quelque chose à ce moment-là.
Car j'étais libéré de beaucoup d'esclavage et d'aliénation. Et j'ai compris beaucoup de choses. Et je suis devenu plus que jamais un homme libre et un homme fort et un homme qui ne recule plus.
Merci beaucoup, Monseigneur Elie Wardé. Vous êtes corévêque et curé de la paroisse syriaque catholique à Paris et vous êtes d'origine libanaise. Merci beaucoup.